Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour la présentation de ce livre consacré à Albert Camus, journaliste. Alors donc autour de cette table, deux journalistes. D'abord l'auteur, Maria Santos-Sainz. Vous avez consacré donc cet ouvrage à une partie de Camus, de la carrière de Camus qui n'est pas inconnue, loin de là, mais qui néanmoins est moins souvent explorée que la façade du moraliste, de l'écrivain, de l'essayiste, du philosophe que nous avons coutume donc de commenter et de lire. Donc le Camus dont nous allons parler, Maria, c'est le Camus donc qui du début de sa carrière et pratiquement jusqu'à sa mort en 1960 a été un journaliste et je dirais un vrai journaliste. C'est-à-dire que Camus, contrairement à ce que l'on entend parfois, n'était pas un journaliste de rencontre. Il a été un véritable journaliste, c'est-à-dire un journaliste de carrière, de goût, de passion, de vocation. C'est de cela que nous allons parler avec vous, Maria Santos-Sainz, qui est donc l'ancienne directrice de l'IJBAR, l'Institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Vous êtes également, depuis quelque temps, membre de la Société des études camusiennes, donc vous avez toute légitimité pour donc vous exprimer sur Camus à travers cet ouvrage extrêmement riche, comme vous allez voir. Et puis donc, vous êtes par ailleurs sur le plan universitaire, donc docteur en sciences de l'information et maître de conférences, donc toujours à l'IJBAR. Voilà, donc vous avez été la directrice et vous avez également été la présidente des chercheurs en journalisme des écoles reconnues. Hein, voilà. Donc, compétences très variées. Et donc, Camus était un vrai journaliste, Maria Santos-Sainz est également une vraie journaliste et vous allez vous en rendre compte. Voilà. Alors, l'autre aspect dont nous allons parler, c'est du Camus journalisme et puis aussi le lien très étroit que Camus a entretenu avec l'Espagne. C'est un aspect, évidemment, que Maria, en tant que citoyenne française espagnole, originaire d'Espagne, de Madrid, donc a beaucoup exploré. Mais ce n'est pas du tout latéral dans la biographie de Camus, puisque, comme vous le savez sans doute, la maman d'Albert Camus était d'origine espagnole. Toute sa branche maternelle était espagnole, originaire des Baléares, donc de Minorque, du nid des Baléares. Et Camus a toujours dit sa dette envers l'Espagne, une dette sentimentale, familiale, politique, et ça, nous allons beaucoup en parler. Voilà, donc ces deux aspects. Alors, on va peu parler de la peste, de l'étranger, de la chute, du théâtre de Camus, de ses relations avec Sartre, encore que. On va surtout parler du journaliste. Alors, Maria, tout de suite, je viens d'exprimer ce lien étroit que Camus entretient avec le journalisme. Il est né en 1913, il a été un très jeune homme, très pauvre et très jeune, dans l'Algérie coloniale, et c'est là que tout commence.
Absolument. C'est vrai qu'il faut dire qu'il a été un véritable journaliste, un journaliste professionnel. Et il a travaillé pour 5 titres différents. Donc d'abord, il a démarré comme journaliste à Alger Républicain en 1938, le 13 octobre. Il avait que 25 ans, il était tout jeune, un âge où normalement nos étudiants à l'école de journalisme, j'ai salué quelques collègues qui sont ici présents, on est plutôt habitués à les envoyer comme stagiaires, à faire des stages dans les médias. Eh bien, à cet âge-là, 25 ans, Albert Camus entre dans ce journal qui est plutôt, avec une ligne éditoriale, plutôt progressiste, dirigée par un autre journaliste, Pascal Pia. Et c'est là qu'il commence ses débuts journalistiques. Ça devient une véritable école de journalisme, mais sur l'État. Ils apprennent vraiment sur l'État. Et c'est là qu'il commence sa carrière de journaliste. Et peut-être une partie vraiment méconnue, parce que c'est vrai que c'est là qu'il se dévoile comme un véritable reporter. Et c'est vrai qu'on connaît plus et ses facettes de journaliste éditorialiste à l'époque à combat, mais la partie que j'ai trouvée la plus intéressante dans ce travail qui m'a permis aussi de parcourir tous ses écrits journalistiques, c'est découvrir aussi Albert Camus, reporter et même un journaliste d'investigation. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une terminologie qui n'était pas du tout employée, plutôt actuelle, mais il a effectué sur le terrain des enquêtes avec parfois une dimension aussi des data journalisme, bien évidemment, à notre terminologie du journalisme actuel, qui n'existait pas à l'époque, mais il a aussi utilisé beaucoup des données des salaires, des ouvriers, il a cité aussi les infrastructures, enfin, il a utilisé aussi ce type de journalisme, des données, afin de mettre aussi en relève ses enquêtes. Donc c'est vrai que la partie que je trouve aussi plus intéressante, il m'est connu, que peut-être les lecteurs vont apprécier, c'est cette qualité des reporters. Il démarre aussi avec des faits divers, tout de suite, des chiens écrasés, comme il dit à son ami Roger Grenier, mais tout de suite il se révèle aussi comme un grand chroniqueur judiciaire. Il s'intéresse à des affaires, à des injustices assez importantes. Il fait aussi tout de suite, en plus des chroniqueurs judiciaires, il s'intéresse aussi, il fait quelques critiques aussi littéraires par ailleurs. On peut dire aussi qu'Albert Camus, journaliste, a pratiqué différents genres journalistiques, donc le reportage, la chronique judiciaire, et également la chronique littéraire, et l'éditorial. Il a fait plusieurs métiers en même temps, dans ces différentes étapes. Donc, si je parlais au départ, ses débuts à Alger républicain, après, il a travaillé pour le deuxième titre qui l'a succédé, c'était et donc les Soirs républicains, un deuxième journal dans lequel il a continué aussi son travail journalistique, et là, avec quelques éditoriaux. Et après, par la suite, il a travaillé pour Paris Soir, et c'est là qu'il y a d'autres fonctions différentes, donc secrétaire de rédaction, plutôt à consacrer à la mise en page, à corriger les articles. Donc il a connu un peu, il était plutôt au marbre avec les linotypistes et les typographes. C'était une autre étape de cet Albert Camus. Et je voulais juste, pour continuer, d'avoir un ensemble des cinq titres dans lesquels il a travaillé après son passage en 1940 à Paris Soir avec Pascal Pia, parce qu'ils ont formé un binôme formidable, est toujours très réussi, et il a été licencié, il a connu le chômage aussi, donc à l'époque aussi il existait également la même précarité qu'on connaît hélas aujourd'hui dans ce métier qui est formidable, mais que parfois ça restait difficile. Et bien sûr après, au moment de la résistance, au moment donc de cette France occupée, il a commencé à collaborer, à combat clandestin, et avec quelques éditoriaux. Et après, par la suite, une fois qu'il y a eu la libération, il est devenu rédacteur en chef. Et notre fonction qui a occupé, importante, donc il a monté assez jeune aussi, et dans les différents postes du journal. Et c'est vrai qu'à Combat, bon, il était un des meilleurs éditorialistes, un éditorialiste reconnu par son magistère, reconnu en France, mais aussi en Europe. Et par la suite, si on doit conclure avec toutes les différentes étapes et passages comme journaliste professionnel, et les dernières, c'était en 1955. Après, il a été chroniqueur à l'Express, mais c'était ses adieux au journalisme. Donc, pour juste montrer les cinq moments clés de son travail comme journaliste pour ces cinq titres.
Alors on l'a bien compris, il y a une période algérienne et puis il y a une période parisienne, donc hexagonale, enfin métropolitaine. Restons sur la période algérienne parce que donc Camus, on le sait, est un enfant pauvre. Vous parlerez sans doute, Maria, du rapport qu'il a à sa mère et l'Algérie, c'est presque parfois la même chose. Il n'a pas évidemment pas fait d'école de journalisme, d'ailleurs il n'en existait pas.
Et d'ailleurs, c'est après la libération.
Après la libération, mais Camus donc est un boursier, Camus est allé au lycée, Camus a commencé des études supérieures, mais évidemment il a besoin de gagner sa vie, et donc très vite il va prendre ses responsabilités, et alors le journalisme l'attire. La circonstance précise qui fait qu'il va rentrer dans un journal. C'est en 1938, vous l'avez dit, il est jeune, il a déjà fait des petits boulots, il a travaillé pour la météorologie d'Alger, il a fait des petits boulots, mais le journalisme l'attire beaucoup. Et n'ayant pas évidemment de compétences professionnelles à la base, il va s'avérer tout de suite extrêmement bien bien doué pour ce métier. Alors, quelles sont les qualités de ce jeune homme, voilà, qui vont faire de lui ce chroniqueur, ce reporter, ce journaliste assez moderne finalement, puisque c'est quelqu'un qui va à la fois aller dans les tribunaux, qui va aller sur le terrain. Il y a un magnifique reportage qu'il a fait qui s'appelle Misère en Kabylie, qui va avoir un certain retentissement. Il fait également des critiques, des chroniques. Enfin voilà, il est tout de suite très jeune, extrêmement tout terrain. Alors, quelles sont les qualités dont il fait montre dès le départ, et qu'est-ce qui fait qu'il a tout de suite voilà, ce goût et cette compétence journalistique?
C'est intéressant. Dans les livres que je vous conseille évidemment de lire, et il y a un passage dans lequel Pascal Piat, c'est lui qui l'a recruté, évoque aussi les talents, la sensibilité sociale qu'il a trouvé dans cette jeune très curieux, un jeune aussi qui a eu une expérience aussi importante. Il avait été déjà au Parti communiste, il avait été exclu, c'était quelqu'un qui a eu déjà confronté à la réalité du monde du travail, et quelqu'un qui a eu un engagement aussi très important, militant. Il avait créé aussi des troupes de théâtre différents, il avait même rédigé d'une manière collective aussi une pièce de théâtre qui n'a jamais pu s'entrer, c'était La révolte en Asturie, un hommage aux ouvriers qui se sont révoltés en 1934 en Espagne. Donc il avait déjà une culture, une curiosité, un talent, et notamment un engagement social, une espèce de sensibilité, capacité de se frotter, aller vers les injustices et pouvoir dénoncer également et donner la voix aux sans-voix.
Donc, ça devait le conduire vers un journaliste militant, et pourtant ce n'est pas exactement ça, Camus.
Non. C'est un journaliste qui est obsédé par la vérité. Donc, pour lui, vraiment, aller sur le terrain, c'était quelque chose d'important. Et c'est vrai que son travail, notamment en Algérie, on le voit, il va toujours rencontrer les protagonistes afin de pouvoir croiser plusieurs sources. Quand il part en Misère en Kabylie, c'est quand même incroyable, personne ne l'a appelé.
La Kabylie, qui est une région totalement abandonnée, une région très très pauvre, parmi les plus pauvres d'Algérie, dans laquelle il décide d'aller passer 15 jours, 10 jours, voilà, donc pour ramener une série d'articles à Alger, dans une région où aucun journaliste ne va, et notamment pas de la presse algérienne de l'époque, qui est une presse un petit peu aux ordres, il faut bien dire, hein, une presse assez suiviste, assez conformiste, alors que lui travaille à Alger Républicain, qui se veut justement un journal beaucoup plus engagé, plus social, un petit peu contestataire aussi.
Oui, donc c'est vrai que l'intérêt aussi de ces travaux journalistiques de Camus, c'est se rendre où personne l'appelle. C'est ça, le journalisme, c'est vraiment essayer de rendre compte des zones désertées par les médias, et pouvoir parler des gens, des invisibles, et pouvoir aussi également parler des réalités qui sont très éloignées, hélas, qui sont importantes. Il y a un droit de savoir, et c'est très important que les public qu'il puisse connaître cette radiographie effroyante d'une réalité. Il a trouvé une misère.
Précision qu'il n'y a ni télévision ni radio, bien entendu.
Ah, évidemment, donc on est dans son époque. Donc c'est le seul unique journaliste qui s'est rendu sur place. Évidemment, ça dérange énormément. Donc il commence déjà la surveillance des prêts auprès de son journal, de la part des autorités. Ils vont finir par le fermer, l'Alger Républicain. Évidemment, ça dérange. Mais c'est ça, le journalisme, justement, c'est pouvoir dénoncer des corruptions, des situations inadmissibles, et surtout cette misère et exploitation à laquelle était confrontée la population indigène en Kabylie.
Alors, peut-être un petit mot sur une affaire, parce que vous évoquez Émile Zola et son J'accuse, donc célèbre intervention d'un écrivain dans le paysage historique médiatique de son temps, donc une intervention de nature presque politique. D'une certaine façon, Camus connaît un petit peu son J'accuse à travers une affaire qui est moins connue, évidemment, qui s'appelle l'affaire Odent. H-O-D-E-N-T, qui était le nom d'un petit fonctionnaire de l'office du blé, je crois, qui a été inquiété, mis en cause dans une soi-disant affaire de corruption sur le marché du blé. Et là, Camus va intervenir de manière très courageuse pour prendre la défense, alors enquêter d'abord, et puis prendre la défense de cet homme. Et au fond, cette affaire Odent, dans laquelle il va remporter un premier grand succès, est assez caractéristique de sa façon de faire, c'est-à-dire intervenir en tant que journaliste, mais aussi avoir ce journalisme d'intention, d'intentionnalité, d'intervention et même de, qu'on ne peut pas parler de militantisme à proprement parler, mais en tout cas d'intention, d'engagement qui est vraiment le propre de Camus. Expliquez-nous un peu cette affaire.
C'est vrai que c'est une affaire vraiment très, très intéressante. C'est toujours lié à une question d'injustice. Il a reçu une lettre à la rédaction de la part de cet modeste fonctionnaire qui était accusé d'une manière complètement injuste, mis en prison. Et donc il se rend à Thiaré, c'était le village dans lequel il avait été mis en prison. Et il enquête, il essaye de connaître vraiment la réalité, et c'est là qu'il découvre qu'en fait, il y a une spéculation de la part des grands propriétaires à partir de la vente du blé, et il commence à rédiger des chroniques, enquêter, à apporter des chiffres, il a dévoilé une réalité des corruptions qui était quand même assez importante. C'est un travail journalistique qui les tient à cœur, il y a énormément de chroniques, il y a cette lettre ouverte qu'on peut faire un parallélisme avec les Géacus de Sola. Moi, je conseille aux futurs journalistes...
Il publie une lettre ouverte au gouverneur
général de la ville, dans lequel il essaie d'employer pour l'innocence de cet homme qui était mis en prison. C'est un travail journalistique vraiment d'enquête sur le terrain. Il y avait des preuves dans lesquelles ça permet, avec cette victoire de la part du journal Alger Républicain, et cette victoire de pouvoir prouver l'innocence, et finalement il est libéré.
Il faut préciser que c'est dans un contexte où le Front populaire en France donc a créé un office du blé pour donc réglementer donc le marché du blé, et que par ailleurs en Algérie, donc on est dans une situation coloniale avec évidemment de grands propriétaires terriens et puis toute une classe de manœuvres agricoles, souvent musulmans arabes, donc de très gros écarts, de très grosses injustices, et évidemment une résistance de cette classe des colons agricoles face à cette réglementation de type socialiste qui vient s'imposer donc à la réalité coloniale algérienne. Donc là, il y a une situation sociale qui compte beaucoup dans l'intervention de Camus et dans le contexte dans lequel il intervient.
Évidemment, il dénonce, c'est vraiment les premières critiques, il dénonce le système colonial d'une manière très 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 forte, et c'est là qu'il vient énormément d'ennemis de la part et de surveillance après de la part des autorités, parce que ça dérange, et donc il se permet d'aller jusqu'au bout dans cette enquête. Mais il n'y a pas seulement cette affaire Oden, il y a d'autres cas aussi dans lesquels il essaie de défendre aussi. Il y a les incendiaires de Ribaud, c'est un autre cas des ouvriers aussi agricoles qui ont été également inculpés juste parce qu'ils avaient défendu les droits à meilleur salaire, un salaire digne. Et c'est là aussi que Camus essaie de défendre la situation inadmissible à laquelle ils sont complètement soumis ces gens. Donc c'est des chroniques vraiment... avec beaucoup d'effets sur le terrain, c'est ça qui est vraiment intéressant, et surtout avec cette idée toujours de combattre, et de dénoncer l'injustice et plaider vraiment pour des causes.
Alors déjà dans le style de Camus, dans le style de ses articles, on a quelque chose de très caractéristique tout de suite. Il a entre 25 et 30 ans, mais il se distingue tout de suite par la clarté de son style, sa capacité à être direct, à être efficace, à croiser les faits, à apporter des choses concrètes, à bien les exprimer, à l'exprimer de façon percutante. Voilà, donc c'est quand même vraiment, c'est un journaliste, au fond, c'est un journaliste né, quoi.
Et moi, je pense qu'il avait déjà des qualités vraiment d'écriture, en sachant que son milieu d'origine, il était très éloigné, quand on y pense aussi d'où il venait, d'une famille... qui apprennent...
Une mère analphabète.
Presque analphabète, sourde. À la maison, il parlait plutôt les dialectes des Minorques. Voilà, et c'est vrai que, un univers très éloigné, il n'y avait pas de bibliothèque, des livres. Donc, c'est quelqu'un qui s'est complètement construit. Et moi, j'ai trouvé aussi, comme exemple, de la diversité sociale nécessaire dans les milieux journalistiques. Et c'est un exemple aussi de cette diversité Camus. C'est un journaliste vraiment qui a donné une sensibilité. Et justement, cet regard visionnaire et aussi et ce journalisme engagé toujours d'une manière essentielle avec la vérité a permis de vraiment être un des vigies et phares de notre métier. C'est pour ça que cet ouvrage, moi j'ai souhaité proposer cet ouvrage aussi aux futurs journalistes, aux journalistes, à tout citoyen intéressé évidemment pour la démocratie, pour le journalisme, pour les droits à l'information, pour la liberté des presses, parce que vraiment, c'est des batailles auxquelles il s'investit énormément. Donc il y a aussi, et je trouvais très intéressant aussi, pas seulement ce travail journalistique exemplaire de la part de Camus, il y a aussi une réflexion déontologique qui je trouvais vraiment exemplaire, qui doit être une référence aujourd'hui dans un métier dans lequel il est bafoué et menacé, comme on le voit, par l'actualité. Donc penser à Camus, vraiment, aujourd'hui, elle est plus jamais que nécessaire.
Alors, l'aventure algérienne journalistique de Camus n'est pas très longue, puisqu'il commence en 1938, et il y a deux facteurs qui vont évidemment interrompre cette aventure. C'est d'abord que la guerre va arriver très vite, donc 1940, donc évidemment avec la censure qui va s'appliquer donc à l'ensemble de la presse, et notamment à cette presse-là, qui est une presse assez contestataire, donc évidemment assez vite, Alger républicain, et puis le soir, sont dans le collimateur des autorités en Algérie. Et puis il y a aussi les réalités économiques. C'est un journal qui marche, qui
pas toujours très bien géré,
qui marche pas forcément très bien, qui s'adresse à une clientèle qui est relativement restreinte finalement, une bourgeoisie éclairée. Évidemment, les ouvriers dont Camus aime parler sont assez peu nombreux à acheter le journal.
Enfin, même les musulmans, ils disent pas non plus Alger républicain.
Enfin, voilà. Donc si vous voulez, évidemment l'assise économique de cette presse est assez fragile. Bon, l'approche de la guerre, le côté donc, très contestataire, tout ça fait que assez vite, évidemment, le tapis va être retiré de dessous les pieds de Camus, mais c'est une expérience fondatrice. Alors, il va partir, il s'est marié entre-temps, mais il va laisser sa femme sur place, et il va partir en France, puisque l'Algérie, c'est la France, mais il va partir en métropole pour gagner sa vie et pour essayer de trouver du travail.
Grâce à Pascal Piat.
Pascal Piat, donc, qui est son grand...
Son mentor, on peut dire. Mentor, c'est quelqu'un aussi de passionnant. C'est un personnage aussi qui mérite aussi une étude, même si lui, il ne le souhaitait pas. C'est quelqu'un qui avait revendiqué les droits au néant. Hein, il voulait vraiment que personne ne parle de lui après sa mort. Mais c'était quelqu'un qui avait un grand talent, toujours dans l'ombre plutôt. Mais c'est vrai que les binômes Pascal Piat et Albert Camus se sont trouvés d'abord en Alger républicain, les soirs républicains. Après, c'est grâce à Pascal Piat qui a trouvé cette poste de secrétaire de rédaction à Paris Soir. Ils ont travaillé ensemble, donc, et aussi, notamment après, à Coba. C'est grâce à Pascal Piat qui entre dans la rédaction, au sein de la rédaction de Coba.
Alors, ce que vous avez mentionné, Maria, tout à l'heure, c'est que Camus a été rédacteur, chroniqueur, donc, mais il a beaucoup aimé la presse dans l'angle de sa fabrication. Il a été très proche des typographes dans la presse parisienne des années 40. Il aimait beaucoup se retrouver vraiment dans l'ambiance d'un journal en train de se faire. À l'époque où les ouvriers du livre et les journalistes étaient en osmose, en symbiose. Ça fait partie de son expérience très concrète, très charnelle finalement.
Tout à fait.
De la presse.
Il aimait beaucoup la camaraderie.
Là, il faut insister sur ce point.
Oui, la solidarité qui régnait vraiment aux membres. Il aimait beaucoup vraiment être dans cet esprit des camaraderies avec tous les ouvriers du livre et aussi les typographes et les typistes. Et c'est vrai que cette odeur d'encre et parfois aussi des fumées, parce qu'à l'époque, on avait le droit des fumées en bas, il aimait beaucoup ça. Je pense que c'était pour lui un véritable... Il préférait même être avec eux qu'en salle de rédaction. Il y a quelques passages aussi de ses écrits dans lesquels il évoque à quel point il était heureux. Il y avait cette ambiance aussi qu'il avait trouvé déjà au théâtre également, et même quand il pratiquait le foot, puisque c'était un sport qu'il avait aimé énormément. Donc c'était un des lieux dans lesquels il sentait que vraiment c'était son règne, son domaine, avec tous ses camarades, qui par ailleurs gardaient un lien très fort, puisque au moment de son mariage, il avait invité plusieurs de ses camarades, justement, de Paris Soir, l'inotypiste.
Alors l'autre aspect de la carrière journalistique de Camus, évidemment, elle est inséparable de la résistance, puisqu'il va être l'éditorialiste phare de Combat entre 1944 et 1947, mais pendant la période de l'occupation, il est déjà membre du réseau Combat, et il va être une des chevilles ouvrières de ce journal donc qui est un des très nombreux journaux de la Résistance, mais qui sera, qui sera après 1944, qui va devenir rapidement le plus important, plus emblématique de cette presse de la Résistance. Mais Camus, donc, est un journaliste résistant, c'est-à-dire qu'il va connaître la vie clandestine de ces journalistes, alors, l'immense difficulté qu'il y a à recueillir l'information dans un pays en guerre, à éviter évidemment les rafles et à participer à la confection d'un journal où évidemment tout est compliqué puisqu'il ne peut y avoir aucune continuité dans la chaîne entre l'écriture des articles et la typographie et la distribution. Tout est extrêmement compliqué. Et donc tout ça, il le connaît pendant 2-3 ans. Et ça aussi, évidemment, c'est dans l'expérience journalistique de Camus totalement fondamental, hein, dans la camaraderie qu'il a vécu dans le journalisme, mais aussi dans sa façon de vouloir toujours témoigner de la vérité. Hein,
Absolument, c'est une époque dans laquelle être journaliste, vraiment, il y a eu par ailleurs plusieurs de ses confrères, des collègues qui ont été arrêtés par la Gestapo et fusillés par la suite. C'était vraiment quelque chose de très dangereux. Et son journalisme, après, comme éditorialiste, il a traité aussi des thématiques qui étaient assez chères, vraiment. Donc, d'une part, il y avait tout son... une thématique autour du totalitarisme, et c'est vrai que c'est là qu'on a les meilleurs éditoriaux des Camus, consacrés aussi à des thématiques qu'on va trouver après, parce que bon, il était modélé par la presse, mais qu'on va trouver après dans nombreux de ses ouvrages. Et il a traité toute la question de l'épuration, c'est vrai qu'il y a eu toutes ces polémiques assez connues avec et François Mauriac aussi, sur la question de l'épuration. C'est vrai que Mauriac, il prenait plutôt la charité, les pardons, et bon, Camus, il était dans une position un peu plus...
Je me souviens qu'on appelait Mauriac, on l'appelait Saint-François des
voilà,
Assises.
Voilà, Saint-François des Assises. Et donc, et c'est vrai que Camus, il était plutôt... pour la justice, et donc de pouvoir vraiment mener cette opération, même si après il a évolué, et à la fin, et voilà, en quelque part, il a compris que cette opération, il n'a pas été toujours menée comme il fallait par différentes branches politiques. C'était une époque très importante, et c'est là qu'on a des éditoriaux vraiment très importants. Je voudrais souligner, il y a tout un chapitre qui est vraiment consacré à cette étape importante des combats. La série Inoubliable est et ni bourreau ni victime, qui par ailleurs a inspiré aussi, quelque part, à la peste aussi, cette résistance contre les nazismes, les fascismes. Et c'est là qu'on y trouve des nombreux éditoriaux aussi consacrés à l'Espagne, à la guerre civile. C'était une cause à laquelle il a été toujours, il est resté toujours fidèle et même après, il a même collaboré. Et c'est vrai qu'avec des nombreux... et journaux libertaires partout, pas seulement en France, aussi à l'étranger et dans d'autres pays, et toujours en défense de la cause républicaine, parce que pour lui, c'est vraiment la guerre d'Espagne, c'était vraiment le laboratoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'était là la première bataille afin de défendre la démocratie, et c'était aussi, on y trouve aussi de nombreux éditoriaux consacrés à ces questions, mais il y a aussi la question de la banalité du mal, je l'évoque aussi, on voit à quel point il est même pionnier aux thèses après développées par Hannah Arendt dans ses écrits, on trouve aussi tous ses intérêts, ses obsessions aussi autour de la question de l'innocence, les sources du mal, la question de l'injustice aussi, la question de la dignité de l'homme. C'est vrai qu'on peut dire que c'était un journaliste révolté. Il y avait un côté Don Quichotte, il y a une espèce de
alors on va pas, oui,
de sens je crois qu'il y a... vraiment de remettre la notion de la civilisation et notamment de donner cette dignité de l'homme face à l'absurde, à l'absurdité.
Alors, ce qui est assez frappant, Maria, dans le cas de Camus, lorsqu'il sort de la guerre en 1944, il faut voir qu'il n'a que 30 ans. Hein. Enfin, il a 30, 31
très jeune,
ans.
Oui. Il était très précoce toujours, mais, dans ce sens-là. Oui.
Ce qui est vraiment frappant dans son cas, et que vous soulignez beaucoup dans le livre, c'est à quel point, En 1944, lorsqu'il devient directeur de la rédaction de Combat, éditorialiste, lorsqu'il bon, qu'il a,
rédacteur en chef, ouais.
Rédacteur en chef, il a une espèce d'autorité, malgré son jeune âge, une autorité, alors à la fois une autorité naturelle, mais aussi une autorité acquise dans les, évidemment, dans les difficultés de la vie, dans les enjeux, ces enjeux de la résistance auxquels il a fallu faire face. Et au fond, il adopte une position très forte, est à la fois très forte et très reconnue, comme d'un journalisme moral, hein, d'un journaliste qui très fortement, tout en étant très respectueux des faits, toujours justice, vérité, vérification, il exerce déjà en 1944 une sorte de magistère moral sur toutes les questions importantes de l'après-guerre, que sont donc ce que vous avez cité, hein, la place du mal, l'épuration, comment relever le pays,
la violence, la barbarie, le terrorisme,
la violence légale, le terrorisme, sur toutes ces questions, il pose très fortement un discours qu'il assume comme étant un discours moral. Alors, est-ce que journalisme et moralisme vont de pair ? Apparemment, chez Camus, ça fonctionne. Expliquez-nous.
Moi, je pense que c'est un journalisme moral, parce que, bon, vraiment, c'est goût de la vérité pour lui, hein, c'est pour ça qu'il y a cet engagement. Et en même temps, il n'empêche pas la prise de parti. Donc, parfois, cette supposée neutralité, il ne faut pas la montrer comme si c'était une indifférence. C'est là qu'il voulait aussi toujours être des côtés des victimes. Il avait évoqué au moment de ce discours mémorable, au moment de la remise du prix Nobel de la paix, un journalisme moral, parce qu'il plaçait toujours la morale avant la politique. Et c'est vrai que c'est là ces dimensions qui a donné une humanité à son journalisme, et c'est là qui a permis aussi de donner en honnêteté cet aspect d'intégrité aussi qui a essayé de voir et traiter la réalité de cette actualité, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il a été confronté quand même à une époque assez difficile, donc d'abord une deuxième guerre mondiale, la montée du nazisme, après il y a eu tout le totalitarisme, après l'après-guerre avec les clivages idéologiques, donc c'est vrai que ce journalisme moral, il a servi de boussole, si on peut dire, dans cette recherche de vérité et cet engagement avec elle.
Alors, j'aimerais revenir avant d'envisager la dernière partie de la carrière de journaliste de Camus. Peut-être revenir avec vous, Maria, sur l'Espagne, parce que c'est vraiment très important. On a dit tout à l'heure que donc il était finalement espagnol, moitié espagnol, finalement. En plus, dans un pays, l'Algérie, où l'émigration espagnole a été très importante, en particulier à Oran, dans l'Oranais. Donc sa mère s'appelle Catherine Saintès. Donc voilà, sa grand-mère est originaire d'une île des Baléares. Il parle, comme vous l'avez dit, il parle pas l'espagnol, Camus. Il a jamais parlé espagnol, mais il parle un peu.
Il a pris quelques mots.
Il parle le dialecte des Baléares, enfin un petit peu en tout cas. Pour autant qu'on parlait pas beaucoup chez lui, mais enfin on parle un petit peu. Alors par contre, ce qui est très important, c'est que ce lien avec l'Espagne, il l'a toujours cultivé, il l'a toujours ressenti. Vous avez parlé de cette pièce Révolte dans les Asturies, qui doit dater, si je ma mémoire est bonne, de 1934.
Bien sûr.
Et puis évidemment, il a 25 ans. Il y a le déclenchement de la guerre d'Espagne, avec donc ces troupes franquistes qui quittent le Maroc pour envahir le sud de l'Espagne, et puis cette longue guerre d'Espagne qui aboutit à la chute de Barcelone, à la chute de Madrid. Et alors tout ça, il le vit de façon très très intense, et jusqu'à la chute de Barcelone et de Madrid, et au-delà, il a pris fait et cause pour les républicains espagnols, logique, compte tenu de toutes ses convictions. Mais alors il va y être totalement fidèle jusqu'à la fin, d'ailleurs en refusant de mettre les pieds en Espagne, dans une Espagne franquiste, hein, où il n'a pas voulu.
Et oui, il s'est rendu qu'une fois.
Alors racontez-nous ce lien.
Il a toujours écrit, l'Espagne c'était sa seconde patrie, c'était pas seulement pour l'origine familiale, c'était aussi une question idéologique, une dimension aussi de vraiment défendre la cause républicaine, la démocratie, c'était là que cet engagement il a été important. C'est une manière aussi de combattre les fascismes, parce que c'est en Espagne qui a où ça a commencé à se jouer. Et toujours dans ses écrits, dans différentes époques, c'est vrai que c'est une thématique qui l'accompagne jusqu'à la fin de sa vie. Il y a eu beaucoup de rencontres avec les républicains. C'est vrai qu'il y a eu de nombreux hommages, à tel point aussi qu'au moment de l'entrée d'Espagne aux Nations, à l'UNESCO, lui, en 1952, vraiment, il a écrit un éditorial dans lequel il critiquait comment les autres pays européens, ils avaient délaissé l'Espagne, qui continuait à être un pays fasciste. Donc, c'est vrai que cet engagement, je l'évoque dans son livre, il y a de nombreux écrits, reportages, il avait beaucoup d'amis en Algérie qui avaient même eu l'occasion de partir combattre en Espagne, et c'est vrai que c'est quelque chose que, point de vue idéologique, était très, très important.
Alors évidemment, il y a dans la vie de Camus donc cet aspect politique, moral, ce lien à l'Espagne, donc familial aussi. Et puis alors, il y a un aspect, j'allais dire, un peu plus people, mais qui est quand même très profond. C'est cette liaison qu'il a entretenue avec Maria Cazares. Maria Cazares, qui était donc d'origine, qui était espagnole, hein, qui était
la fille d'un dirigeant, d'un ministre
qui s'appelait Quiroga, qui est un ministre du gouvernement républicain espagnol. Donc elle est exilée avec sa famille en 1939 à la chute de Madrid. Elle se retrouve à Paris. D'ailleurs, je crois que quand elle arrive en France, elle ne parle pas vraiment français. Elle va devenir une très grande actrice, une actrice phare de la scène théâtrale parisienne de l'après-guerre. Et donc, elle rencontre Camus en 1944. Alors, racontez-nous un peu cette rencontre.
Oui, c'était une rencontre qui, tout de suite, il y a un coup de cœur entre tous les deux, évidemment. La question, c'est que, bon, il y a tous les deux, ils se sont un peu exilés aussi, en quelque part. Lui, il y a l'Algérie qui lui manque, elle aussi, il y a l'Espagne, il y a cette guerre en même temps. Et c'est une rencontre aussi dans laquelle une manière d'être, une sensibilité vraiment dans laquelle il y a une osmose entre tous les deux très, très importante. C'est vrai que cette liaison, comme tout le monde sait, après la publication de cette correspondance tellement abondante qui a eu, et c'était une liaison qui les accompagnait jusqu'à la fin de sa vie, même 100 jours avant de décéder Albert Camus, Maria Cazares, il avait reçu une lettre d'Albert Camus. C'est intéressant, moi j'ai évoqué aussi dans mon travail les livres de mémoire de Maria Cazares, dans lesquels ça permet aussi de connaître cette Camus aussi plus intime, son engagement, déjà comment il envisage aussi d'écrire tout son ouvre littéraire, déjà d'évoquer comme si c'était plusieurs étages, de traiter les thématiques, l'injustice, après il finira avec les bonheurs, les premiers hommes. C'est très intéressant, ça donne pas mal d'éclairage, et évidemment il y a cet ouvrage tout récent qui permet de bien sentir à quel point il y a une complicité aussi idéologique et dans d'autres domaines entre les deux personnages.
Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle joue dans les pièces de Camus. Hein.
Elle est actrice,
elle va participer à la création du Malentendu. Et puis elle va jouer, il y a Les Justes ensuite, et puis L'État de siège, donc trois pièces de Camus dans lesquelles elle joue un rôle. Et donc évidemment, on peut considérer sans doute que dans la carrière littéraire de Camus et théâtrale, elle est un peu plus qu'une actrice, évidemment. Elle a aussi, dans ses dialogues avec lui, un rôle peut-être d'inspiratrice. Dans quelle mesure peut-on le dire?
Oui, non, bon, bah, c'est vrai que moi, j'ai souhaité, quand j'ai fait mon ouvrage, faire une partie consacrée aux repères bibliographiques, qui me semblait important, afin de mieux connaître tout l'ensemble des Camus. Je crois que cet éclairage avec elle, ça permet aussi de connaître un peu cette Camus plus intime. Mais il y a aussi d'autres partie du livre dans lesquelles on voit l'importance aussi du quartier pauvre de Bellecour, qui a joué une partie très importante dans sa vie, son engagement aussi sur les terrains. Et j'ai trouvé aussi dans ces parties des repères biographiques importants de connaître aussi cette absence du père qui était important. Il y a une partie dans laquelle j'ai essayé plutôt de le mettre en rapport avec le journalisme et qui permet de mieux comprendre un peu les journalistes et les choix aussi journalistiques qu'il a fait.
L'absence du père, donc il faut préciser que le père de Camus était mort à la guerre de 14. Camus est né en 13, son père meurt pendant la campagne de la fin 14. Il reçoit un éclat d'obus, je crois, dans l'œil. Il est exfiltré jusqu'à Saint-Brieuc et donc il va mourir très vite donc de ses blessures. Camus, d'ailleurs, il y a une page très émouvante dans laquelle Camus raconte comment il a été s'incliner sur la tombe de son père à Saint-Brieuc.
C'est sa mère qui lui demande
sa mère lui demande ouais. et donc il va voir cette page où il explique qu'il n'est pas devant cette tombe comme un fils devant son père, mais comme un homme mûr devant un enfant. enfant, enfin un enfant, un jeune homme qui a été tué, hein, et que c'est un rapport totalement inversé. La page est très émouvante, hein, vous la citez.
Et oui, en plus, la chose qui est très importante, c'est que c'était vraiment l'absence du père, et c'est ça qui l'a forgé pour devenir un pacifiste, vraiment quelqu'un qui détestait la barbarie, et quelque chose qui était vraiment fondateur d'un... dans sa vie, dans son œuvre et dans ses écrits journalistiques aussi également, parce que j'ai évoqué aussi son engagement notamment au moment du bombardement d'Hiroshima et Nagasaki. C'est vrai que c'était l'unique journaliste qui a dénoncé la barbarie de cette bombe atomique face à une population civile. Donc je crois que c'est important de mieux connaître, bien connaître ses parcours de vie, d'engagement, parce qu'après, et c'est traduit vraiment dans ses écrits déjà journalistiques, mais aussi dans ses
Alors peut-être pour terminer sur l'Espagne, quand même mentionner le fait que lorsqu'il reçoit le prix Nobel de littérature en 1957, il y a les Espagnols exilés républicains qui sont à Paris, ils sont en France, lui font une petite réception pour l'accueillir, le féliciter. Et donc vous publiez la lettre qu'il leur fait, le petit discours qu'il leur fait pour les remercier au fond de l'avoir aidé à rester fidèle à l'Espagne.
Voilà. Oui, tout à fait. Et dans cet ouvrage, donc, il y a quelques passages extraits qui permettent aussi de voir à quel point il y avait cette complicité idéologique, pas seulement avec les exilés espagnols, également quand il faisait partie de Paris Soir au moment avec ses camarades typographes. Il y a des extraits aussi, des articles, des éditoriaux aussi, les plus percutantes de Camus. Et je pense que ça permet quand même, grâce à cet ouvrage, de parcourir l'ensemble de ses écrits, du reportage à la chronique judiciaire et aussi les éditoriaux les plus importants. Mais l'intérêt aussi, c'est que c'est vrai que ces écrits journalistiques, ils sont d'une actualité. J'ai essayé aussi de faire une sélection parmi les écrits, les articles, les éditoriaux, qui avait aussi aujourd'hui un écho dans notre conscience contemporaine et qui permettait aussi de mieux réfléchir et repenser les journalismes d'aujourd'hui.
Donc, alors, je précise que les textes journalistiques de Camus sont évidemment réunis, enfin de la plupart d'entre eux, pas forcément tous ceux qu'il a écrits pendant la Résistance, parce que souvent ces articles n'étaient pas signés, donc on n'est pas toujours sûr des articles qu'a pu écrire Camus.
Enfin, 3 ou 4 au moment de la clandestinité.
Ouais. Par contre, toute sa production journalistique a été regroupée, notamment dans ses chroniques qui s'appellent Actuel 1,
voilà,
Actuel
2, Actuel 3. Dans la Pléiade aussi.
Dans la Pléiade notamment, vous avez tous les textes journalistiques de Camus qui sont accessibles. Alors peut-être expliquez-nous, en 1947, donc il est encore à Combat, mais il va quitter Combat.
Inabouti, hélas, c'est pourtant.
Alors que se passe-t-il en 47 pour qu'il quitte Combat?
Eh bien oui, c'est un problème qu'on connaît aujourd'hui aussi, c'est ce problème d'indépendance, fragilité hélas financière d'un média qui a du mal à... Il y a une chute aussi des ventes, donc il y a la possibilité de l'entrée des nouveaux actionnaires, et c'est vrai que cette indépendance qui avait fait les drapeaux, les porte-drapeaux de ce journal qui reste une référence dans l'histoire de la presse en France, risquait vraiment de s'effondrer. Et c'est là que autant Pascal Pia comme Camus décident de quitter et les journaux avant de céder à cette entrée d'actionnaires et un changement aussi des lignes éditoriales. Donc ces combats pour l'indépendance qu'on doit beaucoup apprendre aujourd'hui, et ces difficultés financières par rapport à l'argent, à des nouveaux propriétaires. Et c'est là qu'à un moment donné, Pascal Pia, dans les livres, tout ça, c'est raconté en détail, parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. Pascal Pia, il décide plutôt de s'aborder un peu à la manière anarchiste, de quitter les bateaux d'une manière un peu rapide. Et cependant, Albert Camus, qui était vraiment très touché avec la possibilité des licenciements de la part des travailleurs, des rédacteurs, essayent de trouver une formule enfin pour que l'actionnaire puisse reprendre, enfin de conserver les emplois des personnes qui travaillaient là-bas. Mais ils décident quand même que la liberté, l'indépendance, ce journalisme vraiment incarné, qui est resté une référence dans l'histoire de la presse, comme je disais tout à l'heure, en France et en Europe, Combat, il n'a pas pu continuer. Donc, c'est un projet inachevé, mais il a toujours été, c'était un peu amer, hein, il faut le dire aussi, qu'il était un peu comme bon journaliste, qui était un journaliste vraiment professionnel. Il adorait, il était passionné, il rêvait vraiment de cette magnifique profession. Et il a décidé, c'est là qu'il a décidé de quitter ce journalisme, mais il pensait, dans notre entretien, il pensait un jour revenir. Hélas, la vie, la mort, il est arrivé trop tôt. Trop jeune, à 46 ans, il est décédé, il est parti, mais il avait une envie, et c'est quelque chose qui est important d'évoquer, de dire, il avait une envie de revenir au journalisme et d'aboutir à ce projet inachevé de ce journalisme des combats, un journalisme, comme je disais tout à l'heure, indépendant, intègre, honnête.
Donc 1947, il quitte Combat, mais donc on peut dire d'une certaine façon que 47, au fond, et le départ de Camus, ça symbolise un petit peu la fin de la presse de la résistance en tant que
c'est vrai qu'il était
de la période héroïque de la presse de la résistance. Mais quand même, Camus, donc après une interruption de 8 ans, va quand même revenir en partie sur la scène journalistique, puisque il va accepter de participer à l'aventure de l'Express, qui était donc ce journal qui avait été lancé par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud pour soutenir la candidature de Pierre Mendès France, donc en 1955, aux élections donc, législatives, pour qu'il devienne président du Conseil. Et alors, donc, il va participer à cette aventure. Alors, le paradoxe, c'est que ce journal, l'Express, est présenté un peu comme un journal à l'américaine, ce qui n'est pas forcément un compliment.
Un news magazine.
Dans la bouche de l'intelligentsia de gauche, à laquelle Camus, tout de même, appartient. Et donc, il va accepter de participer à cette aventure.
Mais pas très convaincu. Il n'était pas très convaincu.
Les critiques de beaucoup de ses amis qui au fond considèrent que Camus est un peu en train de se perdre dans une aventure qui ne lui ressemble pas. Alors expliquez-nous là.
Non, mais c'est vrai que c'était plutôt appuyer la candidature, les retours de Pierre Mendès France, mais aussi parler de l'Algérie. Il avait besoin, malgré ses silences, parce que dans sa vie aussi, il a eu beaucoup de silences, comme les silences de sa mère, et il n'était pas très convaincu parce que la formule et la manière aussi d'y être, et aussi Servan-Schreiber, ça ne lui convenait pas. C'était quelqu'un qui venait d'un autre milieu complètement différent, et cette manière un peu plus aussi sensationnaliste parfois, c'était un journalisme plutôt accroché à des formules qui permettaient de mieux vendre, et c'était une formule que lui, ça ne lui convenait pas. Il avait une autre idée d'un autre journalisme plus exigeant, et c'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps. Il était chroniqueur aussi, et c'est là qu'il a retrouvé aussi François Mauriac, qui était aussi collaborateur, également chroniqueur, également à l'Express. Mais ça a été une période assez courte. Et la différence par rapport à d'autres moments où il a été journaliste, c'était qu'il était, disons, pigiste, collaborateur extérieur. Les autres.
Mais alors, ça va quand même lui permettre. Il va faire donc un certain nombre de chroniques. Ça ne va pas durer très longtemps. Ça dure une dizaine de mois, je crois.
Oui.
Donc c'est quoi? C'est une trentaine de chroniques, je ne sais pas.
C'est surtout l'Algérie qui.
Mais alors, évidemment, ça lui donne la possibilité d'intervenir sur le sujet qui lui tient à cœur et qui est le sujet d'actualité, puisque la guerre d'Algérie, enfin en tout cas les événements d'Algérie ont commencé en novembre 1954, donc 55, c'est le début des événements d'Algérie. On parle pas encore de guerre d'Algérie, mais c'est déjà les troubles. Et puis Camus, il a déjà couvert des événements de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Algérie, notamment les massacres de Sétif, qui ont été un peu l'étincelle des débuts du nationalisme algérien, des révoltes algériennes. Donc il connaît très bien la situation en Algérie, contrairement à tous ses collègues journalistes en France, qui sont très très peu nombreux à savoir ce qui se passe en Algérie. Lui, il le sait très bien. Et cette tribune à l'Express doit lui permettre quand même d'apporter un petit peu de connaissances au public sur les enjeux de l'Algérie et sur les enjeux de cette guerre qui commence.
Surtout qu'il prône pour les dialogues, quelque chose qui n'est pas entendu d'aucune partie, ça c'est sûr. L'Algérie, ça a été, c'était vraiment, il a porté dans ses écrits journalistiques, était très, une thématique très importante. Pas seulement au moment de dénoncer les colonialismes algériens républicains avec la ministère de la Calibie. Il faut savoir aussi que cette enquête, il a été poursuivi après à combat, à l'époque où il était à combat. Il est retourné de nouveau pour voir si la situation s'est améliorée. Et c'est vrai aussi qu'au moment de ces chroniques, au moment de la L'Express, de nouveau, essaye de rendre compte avec des faits, mais là, des commentaires, puisqu'on est dans un genre journalistique différent, la chronique, d'essayer de trouver une trêve et essayer de trouver une autre solution, une autre voie, mais toujours mal compris, bien sûr, de toutes les parties. Et c'était les problèmes, son isolement, parfois, et des Camus. Et donc, il a quitté sa collaboration.
On peut préciser qu'effectivement, sur la question algérienne, il est en porte-à-faux avec l'intelligentsia de gauche qui soutient, Sartre bien sûr, mais d'autres, enfin, qui soutiennent en fait les nationalistes algériens, donc la cause de l'indépendance algérienne, alors que Camus a une position beaucoup plus nuancée, d'abord parce qu'il est lui-même algérien et qu'il a plutôt envie d'une Algérie française, une Algérie évidemment profondément transformée, réformée, oui, mais évidemment il n'envisage pas du tout, lui en tant qu'Algérien, de voir l'Algérie quitter la métropole, suivre un destin différent, lui ça lui paraît totalement incompréhensible, et il y croira jusqu'à la fin, à la possibilité d'une paix, d'une réforme qui serait pour lui, évidemment, qui lui éviterait d'être totalement, coupé en deux, d'une certaine façon, hein, coupé Absolument. En deux, et coupé de ses racines. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui un petit peu attriste la fin de sa vie, hein, toute la fin de sa vie, et malgré le prix Nobel. Hein, malgré le prix Nobel de 57, qui attriste toute la fin de sa vie, il va mourir donc en 60, dans cet fameux accident de voiture avec Michel Gallimard, sans avoir finalement repris le journalisme, hein, puisque c'est après ses chroniques.
Non, mais c'est une idée qu'il avait.
Voilà,
en plus, interview.
Donc entre 56 et 60, pas de journalisme du tout. Là, les quatre dernières années, on peut imaginer qu'il est peut-être happé par sa célébrité littéraire, happé par ses travaux littéraires, mais enfin, d'après ce que vous dites, Maria, il y a toujours cette envie.
Absolument. Bon, lui, vraiment, il avait une grande passion pour ses métiers, qu'il a exercé, qu'il connaissait très bien. Il y a toute une théorie critique qui est très intéressante. Il y a tout un chapitre qui est consacré à la déontologie et journalistique. Vraiment, il a fait du métajournalisme. Il y a toute une partie de ses éditoriaux, notamment un combat où il mène une réflexion. Et il essaye de réformer. Il était très critique. Il aimait le journalisme, mais il critiquait la presse. Et c'est là qu'on y trouve beaucoup de réflexions autour du rôle du journalisme, la mission du journalisme en démocratie aussi, l'importance de la liberté des presses, les droits d'informer, les droits de savoir des citoyens. Et c'est là qu'il propose aussi de nombreuses réformes de la presse. Et en France, il considère aussi que c'est un combat qui est très important, vraiment, de pouvoir garantir l'indépendance de l'argent, de pouvoir également s'éloigner des connivences avec les pouvoirs, les élites, bien politiques comme économiques. Et c'est là que je trouve qu'il y a une déontologie vraiment qui aujourd'hui résonne encore et je trouve très intéressant. Il y a un article inédit que j'évoque aussi dans cet ouvrage qui est très important. C'est un texte fondateur de toute sa réflexion sur le journalisme. Et c'est là qu'il était écrit seulement à l'âge de 26 ans. Il faut savoir à quel point il était vraiment précoce. Et ce texte, c'était un manifeste du journaliste libre, et c'est là qui donne toute une série de conseils, des commandements pour être un journaliste libre. Et moi, je vais les évoquer. Je trouve qu'aujourd'hui, il faudra continuer avec ces points cardinaux. Un, c'était la lucidité. Le deuxième, pour être un journaliste libre, il fallait aussi porter le refus, l'ironie aussi, et l'obstination, nécessaire aussi également pour ne pas se laisser faire avec toutes les pressions aussi du pouvoir et pouvoir aller jusqu'au bout de ces travaux journalistiques. Je pense que c'est vraiment un bréviaire pour journalistes. Il était censuré au soir républicain. Il était rédigé, normalement, il aurait dû être publié le 25 novembre de 1939. Et ces textes, cet article, donc une partie d'un chapitre, il est consacré parce qu'on y trouve beaucoup des idées, nous invite vraiment à penser, et c'est là l'actualité de ce travail, de comment on peut s'inspirer aujourd'hui d'Albert Camus afin de dénoncer, comme il avait fait, l'uniformisation de l'info, mais aussi faire un retour aux sources et afin de pouvoir se rapprocher des vrais gens. Ça faisait partie des thématiques qu'il avait évoquées aussi, et Camus, et pouvoir aussi couvrir des territoires désertés, des gens, des réalités invisibles pour les citoyens. Et ça ça fait partie de cette legs, de cet héritage qu'aujourd'hui
petite parenthèse, vous l'avez cité, c'est que donc là en 39-40, il y a la censure s'exerce sur les journaux, et de façon très concrète, hein, c'est vraiment les ciseaux, les blancs apposés à la typographie, des blancs, donc le journal paraît avec des blancs, le censeur est toujours un officier de l'armée qui vient s'installer à la rédaction.
Pas du tout cultivé, parce que parfois il avait censuré Montaigne aussi, hein, mais il jouait beaucoup avec les censeurs.
L'ironie,
il était un aspect très important vraiment dans les journalismes. C'est là qui a joué beaucoup d'ironie, d'obstination, justement, au moment de cette bataille contre les censeurs, notamment au Soir républicain. Il citait Montaigne, parfois d'autres personnages célèbres. Évidemment, les censeurs, ils n'étaient pas du tout cultivés, donc ils se permettaient parfois de sauter et de mettre les blancs, comme tu dis, évoqué tout à l'heure. Moi, je voulais dire aussi, parmi les réflexions d'Albert Camus qui nous font vraiment, qui sont d'actualité et qu'il faut qu'on récupère aujourd'hui, moi j'y pense aussi comment on doit renouer la confiance avec les lecteurs. Et pour lui, il y a beaucoup de réflexions aussi, comment il ne faut pas mépriser les lecteurs et toujours essayer de rendre cette vérité. La qualité de l'écriture, élever les langages d'un pays, évidemment, c'est une autre question importante. Je crois on doit reprendre vraiment toutes ces conceptions d'un journalisme critique, un journalisme d'idées qui nous a laissé Camus et qui était un peu oublié, hélas, c'est que j'ai souhaité, avec cet ouvrage, mettre dans un premier plan.
Merci à tous et puis bravo à tous, Maria. Merci.